Venez avec nous, entre Garrigues et Cévennes, au cœur d'un site Natura 2000, pour découvrir les nombreux oiseaux et leurs secrets, accompagnés d'un ornithologue.
Ornitho quoi ?
Attention, 1, 2, 3.
Une fourmi de 18 mètres, avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un chat, plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et japonais. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas ça.
C'était Robert Desnos et les enfants de la classe de Pierre-Olivier Servelle de l'école de Sumène. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 8 mai 2024, c'est-à-dire le deuxième mercredi du mois. Il est 9h et quelques minutes. C'est le moment où vous tournez... Ornithoquois s'installe derrière le micro pour une nouvelle émission naturaliste en presque direct depuis les studios de Radio Escapade à Saint-Hippolyte-du-Fort. Voici le menu de votre émission ornithologique préférée qui aura comme fil rouge les vautours. Alors pour commencer et se mettre en bouche un peu de musique avec un musicien qui est bien vivant, Renaud. On enchaînera avec le Nature Quiz de Lily qui testera vos connaissances sur ces grands oiseaux charognards. Puis l'Actu Piaf avec des nouvelles des oiseaux du coin. Un printemps bien humide cette année avec des rythmes qui dépendent des conditions météo qui sont mouvantes. Mais ça bouge pas mal, on a des choses à vous raconter et de bonnes nouvelles à vous faire part. La suite de l'émission, ce sera une petite revue de presse dans le Nature Actu et enfin le Vocabu Piaf. On terminera cette première partie avec la réponse à la devinette de Lily. Une fois que nous aurons fait tout ça, on fera une nouvelle pause musicale et poétique avec toujours les enfants de l'école de Sumène qui nous offrent quelques poésies qui ponctuent cette émission. Puis, on poursuit cet ornithoquois avec rencontre avec Homo sapiens. Cette Homo sapiens, elle est à mes côtés. Bonjour Anne.
Bonjour.
Anne Van Pepperstraat, j'ai bon ?
À peu près.
Qui est en stage avec moi depuis le mois de février pour une durée de 6 mois. Ensemble, on travaille sur des questions relatives aux oiseaux charognards. On vous parlera de tout ça en détail. Voilà. Après cette interview, nous terminerons cette ornithoquois en musique et en poésie. Nous sommes le mercredi 8 mai 2024. Vous êtes sur Radio Escapade, vous écoutez l'ornithoquois avec Péranger et Anne au micro, et Antoine en face de nous qui tourne, appuie et pousse les boutons. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans votre fauteuil, à mettre vos oreilles sur écoute. Allez, c'est parti, on commence cette émission en musique.
Sous quelle botte étoilée, derrière quel barbelé, sous quel champ de ruines. Question d'histoire encore, combien de victimes, combien de milliers d'enfants dans les décombres des camps deviendront combattants. J'en sais rien, donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Question de géographie, où est la Kanaki? Combien de flics, de soldats pour tenir Nouméa, pour flinguer les lois? Combien de petits blancs, de colons arrogants se partagent la terre, et combien de misère pour le peuple kanak? Combien de coups de matraque? J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu c'est toi. Souffle-moi. Question de sport qui détiendra le record et restera vivant, libre et innocent. Derrière des barreaux, 20 ans pour Othello, autant pour Mandela. Et combien dehors la loi, j'ai ces petits juges en bois dont on fait les salauds. J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Question science et nature, ou balancer ses sordures. Allez à la Vologne, ces chiens qui assassinent, ces rats qui emprisonnent. Question de littérature, qui a écrit que les hommes naissaient libres, égaux, libres mais dans le troupeau, égaux devant les bourreaux. J'en sais rien, donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Souffre-moi, souffre-moi, j'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi, souffre-moi.
Nature concoctée par notre animatrice en herbe.
Bonjour, c'est le moment du Naturo Quiz, le moment culturel de l'ornithoquois. Il paraît qu'on parle de vautours aujourd'hui ici. J'ai donc une question à propos du vautour fauve. Ce grand oiseau qu'on peut voir passer dans le ciel de Saint-Thibault à l'occasion. Vu d'en bas, il nous paraît très grand. Mais connaissez-vous son envergure exacte? C'est-à-dire la distance d'un bout d'une aile à l'autre. Je vous donnerai la réponse tout à l'heure, juste avant la pause musicale.
Actu Piaf, des nouvelles des oiseaux de la région au fil des saisons. Bon alors, combien?
Je sais pas.
Deux? Non, plus.
Deux mètres.
Loupé.
Trois mètres.
Réponse tout à l'heure, attention, le suspense. Alors pour continuer, voici l'actu Piaf et quelques nouvelles des oiseaux du coin. C'est le printemps, un printemps assez particulier cette année. Avril 2024 laisse une impression d'un mois coupé en deux, avec des pics de chaleur précoces pendant les deux premières semaines, suivies d'une baisse très nette des températures et des perturbations récurrentes pendant la seconde quinzaine. Cette dernière parenthèse de fraîcheur est marquante puisqu'elle fait suite à deux périodes très douces durant lesquelles de nombreux records de chaleur ont été battus. Au final, d'après Météo France, avril 2024 termine à nouveau au-dessus des normales de saison, avec une anomalie d'environ plus 0,7 degrés Celsius par rapport à la normale 1991-2020. Quant aux prévisions, il paraît que l'été sera chaud encore cette année. Voilà, c'était l'instant météo de l'Ornithoquoi. Nouvelle séquence de l'émission. Revenons-en à nos moutons, plutôt à nos oiseaux. Les migrateurs continuent de migrer et on a vu arriver encore ces jours-ci les guépiers d'Europe, ces oiseaux très colorés qu'on appelle aussi les chasseurs d'Afrique. Autre oiseau coloré qui vient d'arriver, le rollier d'Europe, qu'on a aperçu par-ci par-là depuis quelques jours seulement, tout comme le loriot d'Europe également, qui a été entendu dans nos contrées pour la première fois ces jours-ci. Toujours concernant les migrateurs, le début de la saison du passage des bondrées apivores a commencé. Donc si vous observez des groupes de buses qui volent en direction du nord-est, il y a des très fortes chances que ce soit des bondrées apivores qui migrent, parfois des groupes de plusieurs dizaines d'individus ensemble. Certaines s'arrêteront ici pour se reproduire également. Alors on pourra observer leur parade très démonstrative, un très bel oiseau pourtant très peu connu. Pour ce qui est des oiseaux que nous suivons de près dans notre action Natura 2000, en premier lieu, l'aigle de Bonelli. Nous nous faisons part d'une très bonne nouvelle. En effet, après une longue période d'incubation qui dure une quarantaine de jours chez les Bonelli, un poussin est né dans son aire, et peut-être même deux d'ailleurs. Nous n'avons pas encore pu l'observer directement car il est encore trop petit dans un nid assez profond. Mais nous avons observé des nourrissages par les parents, ce qui nous indique qu'il y a un jeune aiglon au fond du nid. Idem pour son voisin l'aigle royal. Le couple du site Natura 2000 a pondu vers le 22 mars. Donc après environ 45 jours d'incubation, on a constaté hier soir des nourrissages au nid par les parents. Les conditions d'observation n'étaient pas optimales, on reste loin pour ne pas déranger évidemment. Et nous n'avons pas pu voir non plus s'il y avait un ou deux jeunes, mais de toute façon, cela reste une excellente nouvelle. Enfin, le dernier rapace Natura 2000 que nous suivons de très près, le vautour Percnoptère. Eh bien, la ponte a eu lieu vers le 10 avril et les oiseaux sont en train de couver. On vous en dira plus sur cette espèce tout à l'heure avec Anne. On suit tout cela de très près, évidemment, et on vous tiendra au courant de la suite dès le mois prochain. Ça, c'est le loriot, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Le 9 juin prochain, les électeurs et électrices françaises sont appelés à aller voter pour choisir leurs eurodéputés. Avec 81 sièges, soit 10% du Parlement européen, la France est la deuxième nation la plus représentée après l'Allemagne. L'issue du scrutin est donc décisive pour orienter la politique européenne des 5 prochaines années, et les enjeux sont de taille, notamment concernant la protection de l'environnement et de la nature. L'agriculture, qualité de l'air et de l'eau, transition énergétique, santé, biodiversité, gestion des déchets, la quasi-totalité des décisions prises au niveau européen ont un impact sur nos vies. Grâce à sa politique de l'eau, la directive cadre sur l'eau est une pièce majeure. L'Union européenne joue un rôle clé pour préserver les sources d'eau et garantir l'accès à une eau potable de qualité et la propreté des eaux de baignade. L'UE finance à hauteur de 40% le plan relance national post-Covid-19, France Relance. Celui-ci contribue fortement à l'accélération de la transition écologique en France, rénovation des bâtiments, verdissement du parc automobile, prime à la conversion des équipements agricoles, décarbonation de l'industrie, soutien aux cantines scolaires, des petites communes, etc. etc. Le projet européen Empowermed, lutte contre la précarité énergétique et pour la santé des populations vulnérables, notamment des femmes sur les côtes méditerranéennes. Pour protéger les citoyens européens de l'augmentation des prix de l'énergie générée par la guerre menée par la Russie et en Ukraine, l'Union européenne a lancé en mai 2022 son plan d'urgence RePower UE. Ce plan a permis de réaliser de très importantes économies d'énergie, d'accélérer la production d'énergie renouvelable et de rendre l'Europe moins dépendante à l'égard des combustibles fossiles russes. L'UE a créé un fonds de transition juste pour soutenir les territoires industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre dans leur effort de transition écologique. Grâce à ce fonds, le Nord-Pas-de-Calais notamment a bénéficié d'une enveloppe de 325 millions d'euros. En Auvergne-Rhône-Alpes, la directive européenne sur la qualité de l'air en conduit à la mise en place d'actions pour lutter contre la pollution à Lyon, Grenoble, Valence, Clermont-Ferrand ou encore dans le Val d'Arve. La qualité de l'air s'améliore progressivement sur ces territoires pour les polluants réglementés au niveau européen, etc., etc. Enfin, on est bien placé pour le savoir, mais notre action Natura 2000 est directement dépendante de l'Union européenne. Sans cela, je ne serais pas là à vous parler. Donc pour résumer, la destruction et la protection de la nature et de l'environnement sont très dépendantes de ce qui se décide à Bruxelles. Et les élections du 9 juin prochain sont donc importantes pour savoir quelle direction on veut prendre. La huppe faciée. Pour protéger la biodiversité, les naturalistes incitent à laisser votre tondeuse à l'arrêt, notamment durant le printemps. Alors que près de 80% des insectes ont disparu ces 30 dernières années, depuis 2009, le mouvement No More May, soit pas de tonton mais, c'est plus facile en français, est actif en Grande-Bretagne, au pays du gazon rat. Le mot d'ordre suit désormais en France, notamment dans les jardins publics parisiens. De quoi permettre aux insectes de sortir sur les espaces laissés en friche et de se mélanger aux fleurs qui bourgeonnent. Ça fait 20 à 30 ans maintenant qu'on observe des forts déclins d'insectes. On parle souvent de 70 à 80% de population en moins ces 30 dernières années. Il y a plein de facteurs de déclin, notamment les pesticides, les activités humaines en général, et aussi la perte des ressources et d'habitat. Commente Alexandre Barraud, chargé de recherche au sein de l'ONG Pollinis. Laisser pousser une parcelle chez soi ou dans les parcs pour favoriser la biodiversité, c'est aussi un principe qui anime Noël Parisi, responsable technique des Jardins des Plantes de Paris. On a énormément de pigeons qui viennent se nourrir sur la pelouse. Après, quand la saison des floraisons va arriver, on aura énormément d'insectes, beaucoup d'abeilles et d'autres familles d'insectes qui vont être présentes sur la prairie, assure-t-elle, devant cette pelouse non fauchée depuis 2 ans. C'est pour elle la preuve du net bénéfice de ne pas tondre sa pelouse pour le bien de la faune. Un gazon qui est tondu à 4 cm, il n'y a pas de vie dedans, explique Noël Parisi. En fait, tout ça, c'est la palette de la gestion. Comment vous décidez de gérer votre jardin, ajoute la responsable technique du jardin des plantes. Soit c'est de la gestion très stricte, vous êtes tout le temps en train d'intervenir, soit vous décidez que vous allez perdre un peu de votre temps, que vous allez prendre un peu de votre temps pour vous reposer et regarder la nature faire. Parce que la nature sait très bien faire aussi. Elle n'a pas toujours besoin de nous. Ne pas tondre au mois de mai, au moins un bout de jardin est une idée qui progresse, même chez les fabricants de matériel. Une grande marque propose ainsi depuis l'an dernier un mode réensauvagement sur ses robots tondeuses pour que ceux-ci laissent automatiquement une partie des pelouses parcourues à l'écart de leur lame. D'après BFM TV, 4 d'après BFM TV, 9 selon TF1, quelques grands tétras capturés en Norvège auraient été relâchés dans le parc naturel des Ballons des Vosges entre le 26 et le 29 avril. Si les informations sont peu précises, voire contradictoires, c'est que ce programme de réintroduction du gallinacé quasi éteint dans le massif vosgien cristallise les tensions. Le 20 avril, 5 associations écologistes ont déposé un recours en urgence devant le tribunal de Nancy pour suspendre l'arrêté préfectoral autorisant ce projet. Toutes assurent que les conditions ne sont pas réunies pour assurer la survie de ces nouveaux venus. Changement climatique, habitat grappillé par les humains, fragmentation et rupture des corridors, dérangement, collision avec les lignes haute tension, etc. Tous les voyants sont au rouge, aux yeux de nombreux scientifiques. Et tant que ces pressions existeront, les lâchers seront voués à l'échec. Parfois appelé coq de bruyère, le grand tétras est le plus imposant des oiseaux terrestres sauvages d'Europe. Des 500 individus présents dans les Vosges dans les années 1970, il ne reste qu'une poignée, 3 ou 4 d'après les estimations. De quoi considérer la population comme virtuellement éteinte. Lancé il y a 2 ans, un projet à 200 000 euros prévoit d'en prélever 200 en Norvège en l'espace de 5 ans pour repeupler le massif vosgien. Dans son ordonnance rendue le 26 avril, le juge a finalement estimé que la requête des associations ne remplissait pas le caractère urgent. Le magistrat considère que ce programme répond à un motif d'intérêt général, de préservation de la biodiversité, en évitant la disparition prochaine de cette espèce, sans retenir les arguments des scientifiques opposés. Autrement dit, feu vert à la réintroduction. Le dossier n'est pas clos pour autant. La juridiction devant se prononcer sur le fond dans les mois à venir.
Vocabupiaf. On vous explique le langage mystérieux des naturalistes.
Ce mois-ci, on parle d'un mot en lien avec le fil rouge de cette émission. Ce mot, c'est nécrophage. Du grec nécros, qui veut dire mort, et phagin, manger. La nécrophagie est le fait de manger des cadavres. Bien qu'une proie doive généralement être capturée ou tuée pour être mangée, on ne peut parler de nécrophagie que lorsque la proie n'a pas été tuée ni par l'individu qui la mange, ni par ses congénères. Pour un animal se nourrissant exclusivement ou partiellement d'animaux déjà morts, on parle couramment de charognard. La nécrophagie est un service écosystémique essentiel dans la nature. De nombreuses espèces sont nécrophages. Certains se nourrissent exclusivement de charogne, comme certaines mouches, coléoptères ou fourmis. En Afrique, les hyènes sont connues pour leur rôle d'écarisseurs de la savane. Et plus localement, le renard ou le sanglier peuvent consommer des cadavres d'autres animaux. Chez les oiseaux, nombre d'espèces sont nécrophages. Tout d'abord, évidemment, les vautours. 4 espèces plus ou moins spécialisées dans la consommation de cadavres d'animaux. Les corvidés aussi sont nécrophages. Mais eux peuvent aussi consommer des proies vivantes qu'ils prédatent. C'est le cas généralement pour la buse variable, le milan noir et le milan royal. Je ne parle ici que des espèces que l'on peut observer, ici. Car il y a évidemment d'autres oiseaux nécrophages dans le monde. Enfin, c'est un sujet très vaste. On y reviendra tout à l'heure lors de notre entretien avec Anne.
Naturo quiz.
Une devinette nature concoctée par notre animatrice en herbe.
C'est le moment de la réponse au Naturo quiz. Ce mois-ci, on parle de vautours. Et je vous demandais si vous connaissez l'envergure du vautour fauve. D'après les livres, un vautour fauve peut atteindre 2,80 m d'envergure. Ce n'est pas le plus grand de nos oiseaux locaux. Car le vautour moine et le gypaète barbu peuvent être encore plus grands pour atteindre les 3 mètres. Pour ce qui est du poids de ce grand voilier, un vautour fauve pèse entre 8 et 11 kg, ce qui est énorme pour un oiseau. Mais grâce à ses grandes ailes, il peut voler sans trop d'efforts lorsque les conditions météo sont favorables. C'en est fini pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Naturo Quiz.
Voilà, c'en est fini aussi pour cette première partie de l'émission de l'Ornithoquoi. On continue sur Radio Escapade avec un peu de musique, puis un peu de poésie.
Atop the crags and cliffs, the air is thin. So we'll find a mountain path on down the hill. Meet me where the snow melt flows. It is there, my dear, where we'll begin again. Skip and stones, braiding hair. Last year's antlers mark the trail.
take us back, oh, take us back, oh, take us, take us back. Take us back, oh, take us back, oh, take us back. A lonesome bow that creaks and moans of empty houses. Our songs like falling rain. Wind-blown buildings. Muddy ground. The strength of water.
L'araignée grise, l'araignée d'argent, ton échelle exquise tremble dans le vent.
Toile d'araignée, émerveillement, lourde de rosée dans le matin blanc. Ouvrage subtil qui frissonne et ploie, aux maisons de fil, escalier de soie.
Araignée grise, araignée d'argent, ton échelle exquise tremble dans le vent. Madeleine Leigh.
Marc.
Camille.
Isia.
Yes, merci les enfants. On retourne ici dans les studios de Radio Escapade à Saint-Hippolyte-du-Fort et on va faire une petite interview d'un Homo sapiens qui est à côté de moi.
Bonjour.
Rencontre avec Homo sapiens.
Échange avec les acteurs du territoire qui contribuent à la préservation de la nature.
Bonjour Anne, je redis pas ton nom de famille parce que je vais encore le massacrer.
Oui, c'est Van Peperstraat.
Merci. Pour commencer tiens, cette interview, est-ce que tu peux commencer par te présenter, faire un, genre un peu ton CV, mais rapide. Hein. Mmh. C'est pas pour une embauche.
Je m'appelle Anne Van Peperstraat, je viens du nord de la France, du coup ça s'entend un petit peu, de la Somme plus particulièrement, et j'ai 23 ans et je suis en stage pour une durée de 6 mois à la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises dans le service Natura 2000, donc avec Bérangère Rémy.
Ok, et tu es donc en formation, tu es en master AETPF à AgroParisTech, gestion conservatoire et restauration des écosystèmes, t'as vu, j'ai bien révisé. Hein. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette école et de ce master, en quoi ça consiste, enfin, c'est quoi le projet, les objectifs de cette formation?
Oui, donc je suis en deuxième année de master, donc en gestion conservatoire et restauration des écosystèmes, donc c'est un nom un peu barbare, en fait on fait de la gestion de l'environnement. Donc c'est des cours qui ont à la fois un aspect assez biologique, on va dire, sur les espèces, sur le fonctionnement des écosystèmes, mais aussi une partie plus sur l'aménagement du territoire, sur la législation autour de l'environnement, sur les politiques environnementales qui existent. Et du coup, c'est pour former soit des professionnels qui vont travailler dans des bureaux d'études et faire des études naturalistes, ou alors, comme Bérangère, des gestionnaires qui peuvent travailler dans les collectivités territoriales sur de la gestion des écosystèmes.
Et donc, tu es en deuxième année?
Oui, je suis en deuxième année.
Et par rapport à cette expérience, puis peut-être aussi par rapport à ton expérience personnelle, ton sens critique, etc., etc., ta vision de la conservation de cette biodiversité qui est assez malmenée, enfin, je ne voudrais pas orienter la question, mais un peu quand même, par rapport aux enjeux de société actuelle, est-ce que toi, t'as un regard... quel regard tu portes sur cette conservation de la nature, comme on vous l'enseigne à l'école, ou alors même comme tu la vois dans tes expériences pro ou personnelles?
Bah, il existe, enfin nous en tout cas on voit en cours et c'est conforté par mes différentes expériences, c'est qu'il existe beaucoup, beaucoup d'outils à différentes échelles pour gérer et préserver les espaces naturels, que ce soit à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, au niveau des départements, des régions, des communes même, mais que ça reste des politiques qui sont en général très, très sectorielles et très segmentées. Et donc, il va y avoir un service alloué à la biodiversité ou par exemple au climat. Mais il n'y a jamais de prise en compte globale des enjeux sur la biodiversité. Et oui, c'est pareil pour le climat. Et donc, ça reste tout ça très sectoriel. Alors que si on veut arrêter d'éroder la biodiversité et si on veut lutter contre le changement climatique, il va falloir prendre en compte ces questions de manière beaucoup plus globale et les intégrer aux autres politiques et pourquoi pas mettre de côté un peu d'autres enjeux qui seraient économiques ou financiers et inclure des enjeux de biodiversité, de conservation des espèces qui arriveraient au premier plan et qui...
Ce serait plus un truc qui serait sur le côté, ça serait un truc qui serait central et la politique globale se ferait autour de ces questions-là.
Bah, qui serait inclus en tout cas avec un regard global ou qui serait un secteur à part avec un ministère de la transition écologique qui s'occupe que des questions écologiques et puis à côté un ministère de l'économie, mais que vraiment les questions de biodiversité elle soit prise en compte de manière globale dans tout ce qu'on fait, quand on fait de l'économie, quand on fait du tourisme, quand on fait des questions sociales.
Quoi. Ouais.
Voilà.
On va parler un petit peu de ton stage, là. Donc, tu es en stage depuis le mois de février pour une période de 6 mois. Le thème, c'est grosso modo les vautours et l'écarissage naturel. Le sujet du stage, c'est « Études de la fréquentation aviaire d'une placette pour rapaces nécrophages ».
C'est ça.
Et qui finira donc un stage en septembre prochain. Comme on dit dans le jargon, quand on fait un bon rapport de stage, on commence par parler du matériel et méthode. Est-ce que tu peux nous parler du matériel? Ces oiseaux, les vautours et autres nécrophages, est-ce que tu peux nous les présenter, ces vautours qui sont le cœur de ton sujet de stage?
Oui. Alors,
par lequel tu commences?
Bah, y en a plusieurs. Nous, sur la zone sur laquelle je travaille, qui est une zone Natura 2000, donc en zone de protection spéciale, qui s'appelle zone Gorge du Riotor, Phage, Cagnès, il y a trois espèces de vautours parmi les quatre qu'on a en France, donc les vautours percnoptères, les vautours fauves et les vautours moines. Et donc, il n'y a pas le gypaète, qui est aussi très connu, mais donc il n'y a pas cette espèce-là. Et mon stage, moi, il est surtout ciblé sur le vautour percnoptère.
Donc tu peux nous le présenter, à quoi il ressemble, oui. Ses mœurs, tout ça, tout
c'est
ça.
C'est un grand oiseau blanc qui fait à peu près... Il est plus petit que celui dont nous a parlé Lydie tout à l'heure. Lui, il fait plutôt 1,60 m d'envergure. Et il est blanc, il a le bout des ailes noires et il est bien reconnaissable parce qu'il a la face jaune-orangée. Et donc c'est un oiseau qui n'est pas nécrophage strict, donc il ne va pas se nourrir que des charognes, mais il est assez opportuniste, donc il peut aller s'alimenter sur des petits insectes, il peut aller manger du poisson par exemple. Et aussi, il est coprophage, ça veut dire qu'il aime bien manger du caca et il adore surtout la bouse de vache. Donc voilà, ça lui fait un peu ses particularités. Et c'est aussi le seul des quatre vautours qui est migrateur. Et donc là, le couple est revenu en mars après avoir passé l'hiver en Espagne.
Et tu dis le couple, du coup, par rapport à son statut de conservation, combien de ces oiseaux dans le coin ? Il y en a plein ?
Alors non, du coup, c'est une espèce qui est à un statut de conservation très précaire. L'IUCN, donc, qui est l'Union internationale de conservation de la nature, a classé ces oiseaux comme en danger critique d'extinction à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale et européenne. Et donc, c'est un oiseau du coup, qui nécessite des mesures de conservation assez fortes. Il en reste plus que à peu près 80 couples en France, dont un couple qui niche et se reproduit sur le thorax depuis les années 80, avec des changements d'individus. Et donc, c'est sur ce couple-là que je vais travailler durant mon stage.
Et les autres vautours, vautour fauve et le vautour moine, tu peux nous en parler aussi un petit peu, s'il te plaît.
Du coup, au niveau des autres rapaces qui peuvent être nécrophages, on retrouve aussi le vautour moine, par exemple, qui lui est nécrophage strict, contrairement au percnoptère qui était opportuniste. Le vautour moine, lui, va se nourrir, il va se nourrir que de cadavres. Et puis aussi le vautour fauve, qui lui est beaucoup plus connu. Je pense que c'est l'espèce de vautour la plus commune et aussi la plus connue. Quand on parle des vautours, souvent on pense au vautour fauve avec son cou blanc dénudé et puis ses ailes marron. Et c'est une espèce qui est aussi un peu malheureusement mal aimée, qui subit encore aujourd'hui
Il est empoisonné, piégé. Ouais.
Et puis aussi, il y a quelques mythes et légendes, comme quoi le vautour pourrait s'attaquer à des troupeaux vivants, ou alors kidnapper des enfants, ou des choses comme ça. Mais c'est faux, en fait. Les vautours restent des charognards, donc ils vont aller manger de la charogne, des animaux morts.
Clairement. Et le vautour moine, on l'appelle comme ça, parce qu'il vit dans des monastères où c'est...
Oui, il adore prier. non.
D'autres oiseaux nécrophages sur le territoire ?
Oui, du coup, il y en a d'autres, comme tu as évoqué tout à l'heure. Ils peuvent aussi venir des grands corbeaux, mais aussi des buses, des milans noirs, des milans royaux. Ce sont des oiseaux qui vont aussi profiter des placettes d'alimentation pour rapaces nécrophages, parce qu'ils vont, par exemple, trouver en hiver un complément à leur alimentation, même si ce n'est pas l'essentiel de leur alimentation. Ils vont pouvoir aussi venir...
Ils sont opportunistes, quoi.
Oui, voilà. Ouais.
Tu parles de ce système d'écarissage naturel. Comment ça fonctionne ? C'est quoi ? On appelle ça des placettes.
Oui,
tu peux nous décrire quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, et puis voilà, tout ça.
Alors, une placette d'écarissage donc naturel, c'est un endroit qui est encadré de manière législative par des conventions qui sont signées avec les éleveurs. Et les éleveurs, grâce à ces conventions, ont le droit de venir déposer les cadavres issus de leur troupeau. Donc, ça peut être des cadavres de chèvres, de moutons. Sur ces placettes pour que les oiseaux nécrophages viennent s'y nourrir et donc décomposer en fait ces cadavres. Et à côté de ça, en fait, le recours habituel des éleveurs, c'est de recourir à l'écarissage industriel, qu'on appelle écarissage industriel, c'est-à-dire qu'ils font venir un écarisseur quand ils ont de la mortalité dans leur troupeau. Et cet écarisseur va emmener les cadavres et après ils vont être traités dans des industries. Donc voilà, les déchets vont être traités et puis enfouis. Et ça, alors que l'écarissage naturel, on va faire appel à des oiseaux en fait qui vont rendre service en fait, de manière naturelle, en décomposant ces cadavres d'animaux.
Donc les oiseaux sont contents et les éleveurs aussi.
Oui, voilà, c'est un peu gagnant-gagnant parce qu'à la fois, ça permet de soutenir des populations d'oiseaux qui, avec le recul de l'élevage et en plus cet équarissage industriel qui est en fait obligatoire, on n'a pas le droit de laisser une chèvre mourir dans la nature et de la laisser dans la nature déposée comme ça.
Ça, c'était dans les années 50, ouais.
Oui, voilà, maintenant c'est très encadré. Tous les éleveurs, quand ils ont de la mortalité, doivent passer par un équarisseur. Mmh. Et du coup, les vautours ont perdu cette source de nourriture-là qui était importante pour eux. Et en plus, bah voilà, comme on l'a dit avec le vautour fauve, ils pouvaient être victimes de tirs ou de superstitions. Et donc, c'est des populations d'oiseaux qui ont fortement, voire très drastiquement diminué. Et ces placettes d'écarissage peuvent leur rendre service parce qu'elles vont leur offrir des ressources qui vont être faciles d'accès et disponibles pour ces populations d'oiseaux.
Je reviens un petit peu sur ton étude plus précisément. Donc toi, ton étude, ça se situe sur une placette principalement, et pour étudier aussi de manière un peu plus large le régime alimentaire de cet oiseau qui est le vautour percnoptère, là, qui nous intéresse tant. Les moyens, parce qu'on est toujours dans les matériels et méthodes, les moyens que tu as à ta disposition, c'est un suivi par piège photographique sur la placette, tu vas nous en parler, la télémétrie, et puis aussi des observations directes. Tu peux nous décrire un petit peu tout ça ?
Oui, du coup, la placette que j'étudie, donc la placette d'alimentation, est une placette qui s'appelle la placette du Triadou et qui se situe sur la commune de Saint-Bauzille. Et cette placette, avant, elle a été créée dans les années 2000 par une association et aujourd'hui, la gestion a été remise à la communauté de communes, donc dans le service Natura 2000. Et elle sert donc surtout aux vautours percnoptères, enfin, c'est l'espèce qui a été principalement ciblée. Et le but de mon stage, moi, c'est d'étudier l'efficacité de cette placette, de faire un peu un retour, quels oiseaux y viennent, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce qu'ils reviennent souvent, comment ils s'alimentent dessus. Et surtout, comme c'est le vautour percnoptère qui est principalement ciblé, c'est d'étudier l'alimentation de ce couple-là, du couple du thorax, pour savoir quelle part représente la placette dans son alimentation. Et surtout, est-ce que cette part varie en fonction des périodes? Par exemple, pendant la période de reproduction, est-ce qu'il va plus utiliser la placette? Ou au contraire, est-ce qu'il va aller se nourrir plutôt de fumier ou de bouse de vache? Et donc, c'est essayer de mettre un peu des chiffres derrière tout ça, de comprendre un peu le comportement alimentaire de ces oiseaux-là. Sachant que c'est des oiseaux qui n'ont pas été beaucoup étudiés. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de chiffres là-dessus. Et donc, ils ont des comportements alimentaires qu'on aimerait bien essayer d'un peu plus comprendre. Et pour cela, donc pour mener cette étude-là, je dispose de plusieurs outils. Donc déjà, il y a eu un piège photo qui a été posé depuis un peu plus de 2 ans sur la placette du Triadou. Et donc, ce piège photo prend des photos toutes les 2 minutes. Donc, ça fait beaucoup de photos à trier, mais ça permet de savoir quels oiseaux viennent et de les photographier, donc de voir un peu combien de temps ils restent sur la placette, ce qu'ils viennent manger aussi, en fonction de quel type de carcasse ils vont venir ou ils ne vont pas venir. Donc ça, c'est une information assez importante.
Du lien entre ce qui est déposé par les éleveurs, on parlait tout à l'heure, oui. Et l'activité aviaire sur la placette, c'est
oui, ça. Ça peut permettre aussi d'estimer un peu le nombre d'oiseaux qui viennent, pour quelle carcasse ils préfèrent venir, ou au contraire, est-ce qu'il y a certaines carcasses sur lesquelles ils ne vont pas venir. Et puis ça permet aussi de bien connaître presque en temps réel, en fait, de savoir ce qui est déposé, quand c'est déposé, parce que les éleveurs doivent nous rendre une fiche qui décrit leur dépôt qu'ils font au long de l'année.
Dépôts,
un registre, oui, c'est ça. Mais voilà, c'est ça, ils nous le rendent à la fin de l'année. Mais nous, c'est bien de savoir aussi, en temps réel, qu'est-ce qui est déposé et quels oiseaux viennent se nourrir sur quoi.
Et de regarder un peu, d'être un peu critique sur ça. Est-ce que ça marche, en fait? Est-ce que ça marche et est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Et on a aussi, parmi les deux oiseaux, les deux percnoptères qui nichent sur le thorax, donc le couple, ouais. La femelle est équipée d'une balise GPS depuis bientôt 1 an maintenant. Et donc, sur cette balise, on peut avoir différentes données. Déjà, on peut avoir sa position. Donc, pareil, c'est presque en temps réel. La balise transmet une fois par jour ou 2 fois par jour. Mais du coup, on peut savoir dès le lendemain qu'est-ce qu'elle a fait la journée, où est-ce qu'elle est allée. Et donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Et sur cette balise GPS, on a aussi ce qu'on appelle des données d'accélérométrie. c'est un peu compliqué, mais ça traduit de façon, on va dire ça, de façon assez simple, ça traduit la position de l'oiseau. Il faut voir ça comme un plan à trois dimensions. Et donc, ça peut nous donner des indications sur le comportement de l'oiseau. Par exemple, si on a certaines valeurs dans l'accéléromètre, ça voudra dire que l'oiseau, il a la tête vers le bas. Et s'il a la tête vers le bas, bah, ça veut dire qu'il est certainement en train de manger. Et donc, en ayant ces données d'accélérométrie, on va pouvoir savoir si l'oiseau est à un endroit...
Qu'est-ce qu'il fait?
Est-ce qu'il avait la tête en bas ou au contraire, est-ce qu'il est juste passé
posé,
là pour dormir?
Est-ce qu'il était en vol ou ce genre de choses?
Exactement. Chose. Et donc, ça, c'est des données assez précieuses parce qu'elles vont pouvoir nous renseigner sur les comportements de l'oiseau, sur vraiment ce qu'il fait, où est-ce qu'il va s'alimenter. Et bien sûr, ça va devoir être complété aussi par des observations de terrain.
Ouais.
Où, donc là, c'est au gestionnaire, donc bah, moi, pendant mon stage, et aussi Béranger toute l'année, d'aller voir qui a attiré les oiseaux et qu'est-ce qu'il y a sur place. Est-ce que c'est un tas de fumier qui les a attirés? Est-ce que c'est un cadavre d'un animal sauvage qui est mort, qui les a attirés, qui sont venus se nourrir dessus? Donc voilà, il faut compléter par des observations de terrain.
Oui. Les résultats attendus, est-ce que tu as commencé, enfin ça fait quelques mois, quelques semaines que tu as commencé, est-ce que tu as un peu une idée sur les résultats que tu auras à la fin ou c'est encore trop tôt pour en parler?
Bah, pour l'instant, j'ai surtout travaillé sur les données issues du piège photo. Donc j'ai surtout travaillé sur les différents dépôts qui ont été faits sur la placette depuis 2022. Ce qui a été intéressant de noter, c'était que les dépôts les plus abondants ont été faits plutôt septembre-octobre, sauf que c'est pas forcément la période la plus intéressante pour les vautours percnoptères. Et au contraire, en mai, il y avait très peu de dépôts qui ont été faits. Alors qu'en mai, c'est la période où les oiseaux sont en période d'incubation, où commencent à élever leurs jeunes.
Ouais.
Et donc, c'est le moment où on aimerait bien qu'il y ait plus de nourriture facile d'accès pour eux, pour qu'ils puissent s'alimenter très facilement et pas avoir besoin de parcourir de très longues distances pour aller chercher de la nourriture. Et donc ça, c'est un premier résultat qui est apparu. Et donc, un des enjeux, ça serait de voir déjà pourquoi il y a moins de dépôts en mai. Ça peut être lié aux dynamiques des différents troupeaux. Il y a moins de mortalité à cette période-là. Et aussi de voir est-ce que on pourrait pas trouver des solutions
pour corriger
en fait cela et lisser un peu les périodes de dépôt pour que ça soit assez linéaire toute l'année et qu'il n'y ait pas des périodes de creux au moment où les oiseaux ont le plus besoin de trouver des ressources.
Ça c'est sur les côtés placette, mais après aussi tu as un peu commencé quand même à lui courir après, à cet oiseau qui a sa balise sur le dos, tu es allé voir un petit peu les différents secteurs, enfin on y est même allé ensemble sur certains. Où est-ce qu'il se déplace et où est-ce qu'il va? Est-ce que tu peux nous le raconter un petit peu ça?
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait en dehors de poser sur sa falaise et puis descendre à la placette?
Oui, alors c'est... En tout cas pour la femelle, on a vu qu'elle pouvait parcourir encore de très longues distances, surtout au moment où le couple était en train de s'accoupler. Là, c'était des moments où elle parcourait de longues distances et pour aller s'alimenter.
C'est quoi des longues distances pour cet oiseau, à peu près? 10, 15, 20 bornes, par là?
Oh, même un peu plus des fois, ouais. Peut-être même jusqu'à 50 km quand ils allaient, par exemple, sur des placettes qui étaient au niveau du cirque de Navacelle. C'était quand même à vol d'oiseau, je ne sais pas combien ça doit faire.
Une trentaine, je dirais.
Ouais. Et donc, à ce moment-là, et même au début de la période d'incubation, donc quand l'œuf était pondu et que les oiseaux étaient en train de couver, parce qu'en fait, ces oiseaux-là peuvent alterner dans la couvaison, donc c'est la femelle qui couve, et après c'est le mâle qui couve et ils se relayent. Eh bien, ils n'hésitaient pas à parcourir encore de très très longues distances pour s'alimenter, si bien qu'ils ne venaient plus sur la placette du Triadou sur laquelle j'ai le piège photo et sur laquelle je travaille, alors qu'elle est, enfin c'est vraiment la placette la plus proche.
Sous leur nez.
Elle est sous leur nez, donc ils avaient de la nourriture à volonté, mais ils n'y venaient pas, donc c'était assez étonnant. Et là, que la période d'incubation, elle commence à arriver à sa fin. Je pense que l'œuf devrait bientôt éclore et le petit oiseau devrait bientôt être là au nid. Là, il commence à revenir. Donc, il commence à revenir sur la placette. On a vu les oiseaux qui ont été photographiés en fait par le piège photo. Donc, une fois le mâle et une fois la femelle, ils sont revenus tous les deux. Donc, ça montre bien que là, ils arrivent à une période un peu critique où
ils se recentrent sur. Ils bougent moins. Ouais.
Le jeune va être là, donc ils se calment et ils font beaucoup moins de grands déplacements et ils vont aller plutôt se nourrir dans des endroits faciles d'accès et proches. Donc voilà, ça c'est un résultat assez. Ça paraît assez évident, mais c'est quand même intéressant de le savoir et de le démontrer.
Et quand ils se déplaçaient là et qu'ils allaient un petit peu loin aussi, donc ils allaient sur des carcasses, mais pas que.
Non, ils peuvent aller sur différentes placettes, parce que des placettes d'alimentation, il y en a plusieurs qui sont mises en place par des associations ou par des collectivités territoriales comme la nôtre. Et donc, ils vont se nourrir sur ces placettes-là, mais pas que. Ils peuvent aussi aller se nourrir sur des tas de fumier. Donc, ils adorent les bouses de vache et les bouses de veau, surtout. Et aussi, ils peuvent aller se nourrir, avec les observations de terrain, on a constaté que ces oiseaux allaient sur des lieux où il y avait eu du vêlage. En fait, en rencontrant les éleveurs, ces derniers nous ont dit qu'en effet, la semaine où les percnoptères sont le plus venus, c'était la semaine où il y avait eu des vêlages dans le troupeau. Et donc, on soupçonne que les percnoptères se soient nourris des placentas, certainement, ou des restes, en fait, liés à l'accouchement. Il doit y avoir du sang, des petits restes. Et donc, c'est probablement ça qui les a attirés. Et ils sont venus manger ça. Et ils ont dû se régaler. Ça leur apporte... on sait que voilà, les mammifères mangent souvent leur placenta parce que c'est très riche et c'est très bon. Et du coup, je pense que c'est ce que venaient chercher les oiseaux aussi.
Ouais, ça confirme un peu ce que je pensais, en fait. Enfin, ils aiment vraiment tout ce qui est bien dégueulasse, quand même.
Oui.
Et toi, tu mènes un vrai travail d'enquête, en fait.
Un petit peu, oui.
Ouais. Dans les perspectives et mesures de conservation qui arriveraient un peu en conclusion un peu de ton travail, est-ce que tu as commencé à avoir des idées là-dessus ou c'est encore trop tôt aussi?
On réfléchit un peu à l'issue de ce travail, quelles améliorations pourront être faites sur la placette, en termes de gestion, mais aussi en termes de suivi. Peut-être que au niveau du suivi sur la placette en soi, on réfléchissait par exemple à créer un point d'affût, en fait, une cabane d'affût, qui permettrait de compléter les observations en ayant plus des données qualitatives, connaître un peu plus le comportement des oiseaux sur la placette.
Passer du temps à observer directement.
Ouais. Par exemple, est-ce qu'ils se battent? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce qu'il y en a qui mangent en premier, il y en a qui mangent en dernier? Parce que ça, on ne le voit pas forcément sur les photos. Est-ce que quand ils arrivent sur la placette, ils mangent tout de suite? Ou est-ce qu'ils reniflent, ils cherchent, ils paradent? Qu'est-ce qu'ils font, en fait? Et ça pourrait être intéressant de faire une cabane d'affût et d'observer les comportements des oiseaux. Et après, en termes de gestion, on pourrait réfléchir à...
Je reviens sur les suivis. Il y a le projet d'équiper le mâle aussi, quand même.
Oui, c'est vrai. En termes de suivi, il y a aussi donc le projet d'équiper le mâle comme la femelle avec une balise GPS. Et donc, on ne sait pas encore quand ça va se faire exactement, mais ça serait quand le jeune sera assez grand pour être un petit peu indépendant et pas trop déranger les oiseaux, parce que le but, c'est pas de les déranger. Et...
Sur les mesures de conservation, je t'ai coupé.
Et du coup, oui, on réfléchit aussi à sur cette question d'alimentation et de leur donner une ressource alimentaire qui soit riche et bonne pour eux et en même temps assez stable dans le temps. On réfléchissait aussi à la question peut-être du poisson. C'est fait sur certaines placettes d'alimentation, donc notamment en Ardèche. Il y a des dépôts, donc des restes des piscicultures qui sont déposés sur les placettes. Et comme le percnoptère, on sait qu'il aime bien manger du poisson et que le poisson, c'est très riche. Ça apporte plein de bonnes choses.
Ça rend intelligent.
Ça rend intelligent, c'est bon pour la mémoire. On va lui mettre du chocolat aussi. et donc, on se posait aussi cette question-là. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de travailler avec les pisciculteurs? Pour l'instant, c'est qu'une question. Ça reste en suspens, mais ça peut être quelque chose à creuser.
Bon, on arrive un peu au bout à la fin de cette interview, je vais finir par une question plus personnelle, attention, que je pose systématiquement à toutes les personnes que j'interview. Est-ce que tu as une espèce un peu favorite, chouchou, une petite pépite que toi tu aimes particulièrement? Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous raconter, peut-être un petit moment que tu as pu avoir, vivre avec cette espèce?
Oui, j'ai une petite anecdote qui est à la fois super, mais qui est un peu triste aussi. je suis sensible depuis assez longtemps quand même à la nature et j'ai travaillé en tant qu'animatrice nature en Ardèche. Et donc, moi, venant du Nord, je ne connaissais pas du tout ce territoire-là, les espèces qu'on y trouvait. Et je m'étais beaucoup renseignée, et notamment sur les aigles de Bonelli, qui est une espèce qui est aussi ici sur la zone Natura 2000, mais qui est aussi présente en Ardèche, donc une espèce très sensible. Il ne reste qu'une quarantaine de couples en France. Et il y en a donc qui nichent en Ardèche, dans les gorges de l'Ardèche. Et j'arrive ma première semaine d'animatrice nature, je m'étais super bien renseignée sur l'espèce, mais moi, je n'en avais jamais vu, et puis je n'étais jamais venue en Ardèche. Et très peu dans le sud de la France de manière générale. Et durant cette première semaine, il fallait faire une animation face aux loueurs de canoës et leur expliquer les bons comportements à adopter et à transmettre à leurs clients quand ils louent des canoës dans les gorges de l'Ardèche. Donc comment respecter la biodiversité et respecter les milieux naturels quand on fait du canoë dans les gorges de l'Ardèche, comment ne pas déranger les espèces. Donc sujet sensible. Et puis, des loueurs de canoës, ils s'y connaissaient pas forcément. Et donc, c'était à nous, en tant qu'animateurs nature, de les sensibiliser, de leur expliquer les bons gestes. Et donc, cette journée se passait en canoë. On s'arrête le midi pour faire une petite pause. Et s'envole, on parle des aigles de Bonelli. Et sur la falaise, en face de nous, s'envole le couple d'aigles de Bonelli. Et ils passent à 15 mètres au-dessus de nos têtes. Donc, on les voit parfaitement. Wow. On peut différencier le mâle de la femelle. Enfin, vraiment impressionnant. Moi, j'étais bouche bée. Je n'avais jamais vu de ma vie. J'avais révisé plein de choses sur les aigles de Bonelli pour avoir plein de choses à dire aux loueurs de canoë. Et là, on les voit au-dessus de nos têtes. Donc, j'étais vraiment émerveillée. Et en fait, ils se sont envolés parce qu'il y a un ULM qui est passé juste à côté, alors que c'est complètement interdit. En fait, il y a une distance à respecter. Les engins n'ont pas le droit de voler à une certaine distance. Enfin, ils doivent respecter, je ne sais plus combien c'est, mais voilà, ils n'ont pas le droit de passer dans les gorges de l'Ardèche. Et donc, cet ULM passe dans les gorges de l'Ardèche et bam, il fait envoler les oiseaux. Et ça a illustré parfaitement notre propos sur les dérangements humains et sur ces oiseaux qui peuvent être particulièrement sensibles face aux dérangements. Et donc voilà, c'était un peu triste quand même parce que voilà, c'est vraiment la preuve que on empiète sur leur milieu et on les dérange vraiment. Mais en même temps, c'était super chouette de pouvoir voir les aigles de Bonelli d'aussi proche. Voilà.
Merci beaucoup, Anne.
De rien.
On continue avec c'est quoi la suite? C'est un peu de musique.
One. 2, 1, 2, 3.
Oh, man.
oiseaux. Donnez-moi des oiseaux, dit l'arbre, donnez-moi une foule d'oiseaux. Des moineaux, des hirondelles, des étourneaux, des tourterelles, des merles, des mésanges et un coucou. Un seul, comme un bijou près de mon cœur. Couvrez-moi d'oiseaux de toutes les couleurs, afin que ce manteau de plumes me tienne chaud pendant l'hiver, quand mes feuilles une à une, mortes au vent cruel, s'en sont allées. Jean Joubert. Deva.
Merci Deva. On arrive à la fin de l'ornithoquoi. Et c'est le moment des remerciements. Alors, je vais faire toujours pareil, essayer d'oublier personne. Merci à Lily pour le Naturo Quiz. Merci à Anne pour les échanges qu'on a eus tout à l'heure. C'était très instructif et bravo aussi pour ton travail. Merci aux enfants de l'école publique de Sumène qui nous ont proposé les différents moments poétiques qui ont ponctué cette émission. Merci à toute l'équipe de Radio Escapade, évidemment, à Antoine qui a été à la technique aujourd'hui. Merci à la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises qui m'embauche et qui me permet de faire cette émission dans le cadre de mon travail. Et surtout, surtout, un grand merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Si vous souhaitez rester informé de nos nouvelles, je vous rappelle qu'il y a toujours la page Facebook du site Natura 2000 Gorge du Rio Thor, Fage Cagnas, pour ceux qui sont connectés. L'adresse à chercher sur Facebook, donc, c'est Nature à 12 000. Voilà, portez-vous bien et à tout bientôt.
Venez avec nous, entre Garrigues et Cévennes, au cœur d'un site Natura 2000, pour découvrir les nombreux oiseaux et leurs secrets, accompagnés d'un ornithologue.
Ornitho quoi ?